quiétude d'une main d'enfant fondue craintive dans la tienne.
Shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday.
Bonjour, petit cahier à double ligne, page jaunie par le temps, bords écornés, maintes fois remis, buvard vorace suçant les taches maladroites, majeur barré d'échappes violettes, craie blanche peureuse et grinçante, à ondoise en bois noirci à la hâte, colonne de table bancale polie au tesson tranchant. De bûchettes boiteuses, gavant les plumiers, plumes sergent-major gâtés, noyés dans les encriers béants, pareils à des soldats défaits. Plumes des grands jours, agiles dans le roulement des cahiers. Position toi fois ardue, au coup de récréation turbulente, aux pinsames lourds et nombreux, multiplication de tables chantantes, aux consoles, aux voyelles attelées, division de gâteaux en part de rêve, chant gonflant vos poitrines, chant serré de vos crânes de poivre. Sac honteux de dribble, lard dans vos épaules. Voici venu le temps de passer ou redoubler sous l'œil attentif des flamboyants arrogants, incendiaires du silence.
Maintenant, une rediffusion de Radio Cartable, car nous sommes en vacances. Et voici Radio Cartable, la radio des écoles d'Ivry.
Radio Cartable. Chantal d'Ivry.
Qui voulait voyager de Eric Carle. Un beau matin, un coq décida de partir en voyage. Il se mit en route aussitôt. Il allait voir le monde. Il n'était pas encore très loin qu'il commençait à se sentir seul. C'est alors qu'il rencontra deux gros chats. « Je vais voir le monde. » Alors dit-il, « Vous venez avec moi ?»« Volontiers, ronronnèrent les chats. » Que l'idée de voyager séduisait. Ils suivirent le coq. Un peu plus loin, le coq et les chats croisèrent trois grenouilles. « Nous allons voir le monde. Vous venez avec nous ?»« Pourquoi pas ?» répondirent les grenouilles. « Nous n'avons rien de mieux à faire. » Elles suivirent le coq et les chats en sautillant. Plus tard, le coq, les chats et les grenouilles aperçurent quatre tortues qui se traînaient tout doucement sur la route. Le coq est là. Vous venez avec nous, nous allons voir le monde. Ça a l'air amusant, commenta une des tortues. Comme le coq laissa les grenouilles et les tortues aller leur chemin, ils virent cinq poissons qui nageait dans un ruisseau. Où allez-vous comme ça ? Demandèrent les poissons. Nous allons voir le monde. On peut venir avec vous ? Supplièrent-ils. Vous êtes les bienvenus, affirma le coq. Et les poissons vinrent grossir la troupe. Bientôt le soleil se coucha, le ciel s'assombrit et la lune se leva à l'horizon.
Qu'est-ce qu'on mange, voulurent savoir les chats. Où est-ce qu'on dort, s'inquiétèrent les grenouilles. On a froid, gémirent les tortues. Soudain, des lucioles paraissent au-dessus de leur tête. On a peur, pleurnichèrent les poissons. Le coq ne savait pas comment rassurer ses amis. Il avait oublié de prévoir les repas et le logement. Il n'avait aucun plan. Personne ne dit rien. Mais au bout d'un moment, les poissons annoncèrent qu'ils préféraient rentrer. Ils souhaitèrent un bon voyage à tout le monde et s'éloignèrent. Les tortues qui regrettaient le confort de leur petit chez-soi firent demi-tour. Un instant plus tard, sans même un au revoir, elles s'en allèrent en se traînant. Les grenouilles non plus n'étaient pas contentes d'un bond. La première prit le départ, suivie de la deuxième, puis de la troisième. Avant de disparaître, elles souhaitèrent au coq une excellente soirée. C'est alors que les chats se rappelèrent de leur plat de viande qu'ils n'avaient pas fini de manger. Ils firent leur amitié au coq et eux aussi rebroussèrent chemin. Resté seul, le coq réfléchit. Puis, redressant la tête, il s'adressa à la lune. « Je voulais voir le monde et je n'ai rien vu. » J'ai froid, j'ai faim, mais pour être honnête avec vous, j'ai surtout le mal du pays. » La lune ne répondit pas. Elle s'en alla comme les autres. Alors le coq comprit qu'il valait mieux faire demi-tour et rentrer à la maison. Bientôt, après s'être régalé de graines, il s'installait sur son bon vieux perchoir. Il ne tarda pas à s'endormir. Et cette nuit-là, il fit un rêve merveilleux. Il rêva qu'il partait faire le tour du monde.
Écrit ces trois lignes d'histoire. Moi je vous dis qu'elle est formidable de dire non au canon, oui à la vie. Moi je vous dis qu'elle est formidable, la jeunesse d'aujourd'hui.
À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales. Et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non, c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe à deux pas larges et lisses. Et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés. À des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient. Pareillement, élevé l'olivier, j'ai fait ce qu'il faisait. Mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant. Cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout montent leurs forteresses, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat? Et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, Et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier, quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. Bientôt tu deviendras un homme, bientôt tu veilleras la nuit, bientôt tu seras debout en somme, debout et insomniaque à la fois, mon petit. Dors, 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 dans ton sommeil, il y a des chevaux.
D'enjeux, une actu, réduire les déchets. Ce sujet nous permet de nous poser deux questions. Pourquoi réduire les déchets et comment les réduire? Là, une haie de couleur verte parce que ça représente la nature. C'est la couleur qu'on utilise quand on parle d'écologie. On voit plusieurs déchets, une canette, un ticket de métro, un tronc de pomme, les restes d'un poisson avec toutes ses arêtes, un papier, un mouchoir et un sachet en plastique. Ces déchets sont éparpillés sur l'affiche. Ils se retrouvent partout parce que les personnes ne les jettent pas à la poubelle. On les retrouve partout dans la nature. Ils polluent la planète, la détruisent, font du mal aux animaux.
D'ailleurs, il y a une mouette qui a une patte bloquée dans un déchet en plastique. Cette image nous montre que les déchets sont dangereux pour les animaux. Les animaux peuvent confondre les déchets avec leur nourriture. Les animaux peuvent se blesser avec les déchets et en mourir. Il y a un camion de poubelle qui transporte les déchets vers une déchetterie. Ces déchets seront enterrés ou incinérés. Ces déchets polluent. Il faut donc les réduire pour protéger la nature, les animaux. On voit un homme qui tire un énorme sac poubelle. Ce sac est plus grand que lui. Il y a trop de déchets dedans. Cet homme n'a sûrement pas trié les déchets. On peut imaginer qu'il gaspille, qu'il ne fait pas attention aux emballages. Cet homme produit trop de déchets, il pollue, il devrait acheter moins et mieux acheter, c'est-à-dire des emballages moins polluants.
On voit aussi une poubelle avec un couvercle jaune sur laquelle il y a un logo du recyclage. Cette poubelle permet de trier le plastique et le carton. On pourra recycler et réutiliser les déchets. C'est pour nous rappeler que pour les réduire les déchets, il faut les réutiliser. Mais si on jette tous les déchets mélangés, on ne peut pas les recycler. Il faut trier pour récupérer les déchets qu'on peut recycler. Il y a une usine où on brûle les déchets. Ces déchets ne sont pas recyclables et polluent. Il faut donc privilégier les déchets qui sont recyclables. Alors pourquoi et comment réduire les déchets ?
Nos déchets ont un impact sur la nature qui nous entoure. Ils la polluent et mettent en danger notre planète et ceux qui y vivent. Pour les réduire, il faut les trier pour pouvoir les recycler, c'est-à-dire les réutiliser. En fabriquant d'autres objets, on peut aussi acheter moins, éviter les nombreux emballages. Avant d'acheter quelque chose de nouveau, il faut vérifier s'il est possible de réparer l'ancien. On peut donner les anciens vêtements, les anciens jouets pour leur donner une seconde vie. Avec les déchets organiques, on peut aussi faire du compost. Ce n'est pas compliqué. Il faut que chacun adopte de bons réflexes. Et toi, tu en penses quoi?
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Nous sommes les CM2A de l'école Langevin. Cette année, nous sommes les petits correspondants du théâtre. Mardi 11 octobre, nous sommes allés voir un spectacle au théâtre Antoine Vitez. Il s'intitule « Le carnaval des animaux sud-américains ».
C'est l'histoire d'un adulte qui retrouve son don d'enfance lors d'une balade au zoo. Communiquer avec les animaux.
Un condor vient le chercher et lui dit « Invite les animaux sud-américains à un carnaval pour rétablir la paix entre les animaux et les hommes. »
L'homme part alors en Amérique du Sud
pour écouter les histoires de plusieurs animaux.
L'artiste
Eliot Génico, comédien.
Il mimait les animaux.
Si tu savais, moi j'ai pas le temps de tout raconter. J'ai beaucoup de travail, moi. J'ai tout porté, rapporté, supporté. Riche, ouvrier, prêtre, lui, les trois trésors, le café, le sucre, l'or. Oh, déjà mes ancêtres au Mexique ont porté les conquistadors, ces chevaliers qui ont conquis mon pays. Oh, je n'ai pas le temps de tout raconter, mais je te raconte quand même.
Nous allons vous présenter les animaux sud-américains.
Condor, c'est un oiseau majestueux considéré comme un dieu par les Incas et les Mayas. C'est lui qui demande au jeune homme d'écouter les histoires de chaque animal d'Amérique du Sud.
Mon bec est si pointu que je pourrais écrire mon nom sur le soleil. Mais je suis seulement venu te chercher, ne crains rien.
Le lama. Elle était agacée, prête à cracher.
Elle a une apparence snob.
Oh ! Je sens que je vais cracher, là. Quand je vais tâcher, que je vais lâcher. Quoi ? Pourquoi j'ai la rage ? Mais parce qu'on m'achète pour pas cher. Je suis une monnaie, ici.
L'or, drôle d'animal, ça n'en est pas un. L'or s'offrait car les conquistadors sont venus chez les Incas et ils en avaient beaucoup. L'or a été pourchassé, maltraité, convoité.
Le jaguar parlait en rime. Narcissisme.
Il est avec les riches.
Son costume était un costard avec des lunettes noires.
L'or, j'adore. Je kiffe aussi les habits de fourrure. Celle des autres. Oui, bien sûr. Et le peuple. Et les gens. Que voulez-vous savoir, vraiment? S'ils ont faim, mais qu'ils mangent. Les pleurs, les râles, ça me dérange. Ça n'est pas digne d'épouser ce bruit, mais ça ne me coupe pas l'appétit.
Finalement, il n'ira pas. Pas au carnaval.
Le capybara, il a des petites lunettes, il oublie tout, même la chanson de son enfance.
Moi qui suis rongeur, tu sais, je comprends que la vérité aussi se rouge. Elle se rouge tellement qu'elle disparaît. Moi, capybara, je veux juste ça, la mémoire.
Le tatou.
Lui aussi parlait en rime.
Tout rimait avec son prénom.
Le tatou dit tout sur maman tatou, t'as tout compris?
J'ai tout dit. T'as tout eu, t'as tout entendu. Et chante ça partout en tatou à ton tour. Tatou veut dire amour.
Le dauphin rose, il se fait pourchasser. Des braconniers en veulent à sa chair. Il adore danser et sa légende est qu'il se transforme en jeune garçon pour aller danser avec les filles.
Moi, quand un homme tombe à l'eau, je le sauve toujours, et ça me fait plonger de colère et d'injustice. Je vais te dire un secret. Tu sais ma légende? Eh bien, elle est vraie.
Le nondu, c'est un oiseau qui ne peut pas voler. Il court, il ne s'arrête jamais de courir. Il ne sait même pas pourquoi il court. C'est une autruche.
Très dangereux, je répète, il part dans le plaisir, part dans le plaisir. Ça se bête, dictateur, menteur, je répète, part, dictateur, menteur, tu es horreur. Je répète, part dans le plaisir, part dans le plaisir, je répète, c'est dangereux, dictateur, menteur, tu es horreur. Dictateur, menteur, tu es horreur. Dictateur, menteur, tu es horreur.
Les perroquets, c'étaient des victimes de leur beauté. Pour se libérer, les oiseaux ont cassé les oreilles des humains qui ont fini par ouvrir la cage.
Ces personnes étaient riches et ont décidé d'acheter des humains qu'ils ont mis dans des prisons. Les oiseaux ont aidé les humains en se chantant « Liberté !
Liberta !
Liberté !
Liberta !
Liberté !
Liberta ! »
Le cygne noir. Il ressemblait à un point d'interrogation sur les temps, donc il se posait plein de questions.
Qui suis-je ? C'est quoi mon Amérique ? Pourquoi je danse en sachant tout ça? Est-ce que je peux dire ce que je pense aux gens d'en bas, à mon pays? Est-ce que je peux ajouter façon, je vais quand même faire la fête. Et que la vie est courte comme une bougie, et que sans musique, le ciel tomberait. Parce que le carnaval est là, alors on peut tout se dire. Et si des gens, ou le président, ou font sourire, ne sont pas contents, tant pis. Tant pis. J'ai compris que mes ailes me font voler quand je réfléchis. Pas quand j'ai peur et je me lamente.
Sur scène, à part l'acteur, il y avait deux femmes et deux hommes.
La dame, elle faisait de la flûte traversière, la flûte de Pan, et parfois elle faisait des instruments un peu étranges. Il y avait aussi un pianiste, une dame qui faisait du violoncelle, et quelqu'un qui faisait des instruments à percussion.
À chaque fois que l'acteur il faisait un animal, bah, eux, c'est de montrer, par exemple, leurs émotions envers l'animal, la peur, la tristesse, la joie, tout ça. Ils ont joué la musique, du coup c'est ça qui a fait pour avoir du rythme. Et c'est ça qui a fait qu'on a rigolé, tout ça, voilà, c'était bien.
La scène que j'ai aimée, c'est l'autruche quand elle courait parce que c'était vraiment très drôle. Et la scène que j'ai pas aimée, c'est le tatou parce que j'ai pas très compris le rime. La scène du tatou, c'est celle que j'ai le plus aimée parce que j'ai trouvé ça drôle. Et j'ai beaucoup aimé l'instrument que la mère tatou a utilisé. Et en plus, comme tout rimait avec le nom tatou, j'ai trouvé ça bien. Comme il faisait tous les rôles, l'acteur, parfois on ne savait pas s'il était, il était retransformé en son personnage principal qui n'est pas beaucoup là, ou alors en animaux, et parfois il passait directement d'un animal à un autre et on ne comprenait pas. Par exemple, j'ai cru que l'autruche, enfin le cygne noir, c'était l'autruche, alors que c'était deux animaux différents. La scène du lama, c'est tout de suite, mais cette fois-ci, là, on voit qu'il retourne une des décorations. Et là, on voit un lama et on comprend. Et lui, il commence à dire, les lamas, il paraît que ça crache. Et là, bah, moi, je comprends que là, ça va commencer. Le lama, il va aller. Alors que, par exemple, les oiseaux et le perroquet avant les oiseaux, j'ai pas compris que c'était le perroquet. Et après, il y avait les oiseaux. Il a tout de suite parlé des oiseaux.
J'ai beaucoup aimé la scène quand les rubans tombent sur scène parce que c'était assez impressionnant. Quand la musique elle a commencé à être un peu plus fort, et ben les rideaux ils sont tombés. C'était des oiseaux, des toucans et plein d'autres qui étaient emprisonnés derrière des barreaux et ils essayaient de sortir mais ils pouvaient pas.
Ils parlaient plutôt qu'ils avaient été enfermés pendant très longtemps dans des cages et qu'après un moment, ils avaient crié très très fort pour pouvoir se libérer. Et ensuite, ils les ont libérés, mais ils ont mis des humains à l'intérieur, mais c'était pour représenter les prisons.
Moi, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est le jaguar. Vu que moi, je trouvais ça gênant qu'il se met à quatre pattes devant beaucoup de spectateurs. Comme ça, en faisant comme ça, moi, je trouve que c'est pas très normal. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas aimé. C'est un peu gênant. L'acteur, c'était bizarre ce qu'il faisait.
Il léchait sa main.
Il léchait sa main, mais pas vraiment. Il léchait pas vraiment sa main. Il faisait semblant. Moi, je pourrais jamais faire ça sur un plateau comme ça si j'étais à sa place.
Personnellement, j'ai déjà fait des pièces de théâtre devant beaucoup de gens. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand on en fait son métier, lui, il avait l'air d'avoir une grande expérience. Et je pense que la première fois qu'il a fait un spectacle, et même les premiers spectacles, le début de sa carrière, il a déjà été gêné. Mais comme là, on voit, il a eu plein de spectacles,
Je pense que c'est ses gestes, et je pense qu'il fait aussi d'autres spectacles humoristiques avec des gestes ridicules. Du coup, il s'est habitué à être devant beaucoup de gens.
Ah, c'est ça que vous voulez dire.
Et je pense que c'est des gens, les comédiens, ils peuvent parler devant beaucoup de monde, et être timide, c'est pas très bien quand t'es comédien.
Quand l'acteur il est venu devant une femme qui faisait le violoncelle, oui, bah il est venu, bah il a fait ça et elle a tourné sa tête. Moi j'ai pas trop compris ça.
Il jouait le rôle du guépard, du jaguar, je veux dire. Du coup, c'était un animal terrifiant et qui devait terrifier les gens, et pour montrer bien vraiment, il lui faisait peur et elle détournait la tête pour montrer que elle avait peur.
J'ai particulièrement aimé une scène, celle sur le jaguar, parce que j'ai bien aimé quand il commençait à parler en rime, parler des riches. J'ai trouvé ça assez drôle. Mais je n'ai pas aussi aimé la scène du jaguar, parce que je trouvais qu'il allait un peu loin dans le narcissisme.
Écoutez une retransmission de Radio Cartable, c'est par petits morceaux, je suis désolée pour les blancs. C'était une émission de juin 2023. Thank you.
Bonjour, nous sommes les petits correspondants de l'école Paul Langevin et nous allons vous faire le résumé de la pièce de théâtre Natchav. La compagnie de cirque du nom de Natchav voyage de ville en ville. Arrivée dans une ville, la compagnie s'installa à l'endroit prévu, mais un policier leur ordonna de quitter les lieux. Le dialogue tourna au vinaigre. Une bagarre démarra entre les policiers et les circassiens. Trois circassiens se font arrêter et le reste de la compagnie est délocalisé dans la périphérie de la ville.
La police les avait prévenus. S'ils avaient respecté les ordres, sans s'énerver, ils ne seraient pas allés en prison.
Oui, mais là, les policiers sont censés représenter la loi. Mais dans le spectacle, ils ont un rôle de méchants. En plus, cette scène était très violente, mais bien faite, avec les mobiles d'ombre et la fumée.
Ce que j'ai trouvé fort dans la pièce, c'est de pouvoir parler d'un enfermement injuste, des circassiens de manière poétique. Ils voulaient juste de la liberté, pouvoir exercer leur art tranquillement et sans dérangement.
Pendant que les circassiens s'installaient, les trois prisonniers échafaudaient leur plan d'évasion.
Le gardien de prison gagne une place pour Natchav grâce à un jeu radio. Il quitte alors son poste pour aller voir le spectacle. Pendant le spectacle, les clés des cellules ont été volées par le singe de la compagnie et données aux prisonniers. Ils tentèrent alors de s'échapper. Hélas, ils n'eurent pas assez de temps et durent rebrousser chemin.
J'ai trouvé ça très triste, même si parfois c'était drôle. Mais quand même, dans l'ensemble, c'était triste.
Mais non, il n'y avait pas que des scènes tristes. Quand le gardien se fait déshabiller pendant le spectacle, il finit tout nu.
Ne perdant pas espoir, la compagnie échafaude un nouveau plan. La compagnie débarque devant la prison et commence un spectacle d'ombre sur une évasion couvrant alors la réelle évasion des trois circassiens. Alors, enfin réunie, la compagnie reprend la route vers de nouvelles aventures.
Quelque chose de nouveau comme un spectacle d'ombre.
Toutes les personnes sur scène ont un rôle dans le spectacle. Donc c'était à la fois un spectacle vivant, mais aussi un spectacle projeté.
Ce qui nous a beaucoup plu dans ce spectacle est la réalisation des mobiles. Nous avions vraiment l'impression de regarder un film, tellement c'était bien réalisé.
Oui, mais ça manquait quand même de couleurs. C'était essentiellement noir et blanc.
Moi, j'ai trouvé ça ennuyant de regarder un film. J'avais pas bien compris l'histoire, en plus, il n'y avait pas de dialogue.
Les images et la musique suffisaient pour comprendre l'histoire. En plus, la musique était en direct et les bruitages étaient très réalistes.
La compagnie avait choisi de ne pas mettre de dialogue parce qu'ils pouvaient jouer la même pièce à l'étranger. Et s'il y avait des enfants malentendants, ils pourront quand même comprendre le spectacle.
Moi, j'ai trouvé ça super. C'était le meilleur spectacle que j'ai trouvé pour l'instant. Je vous conseille d'aller le voir.
Thank you.
Bonjour, je m'appelle Dineba.
Bonjour, je m'appelle Maya.
Bonjour, je m'appelle Macha.
Bonjour, je m'appelle Julian.
Bonjour, je m'appelle Tasnim.
Bonjour, je m'appelle Camille.
Bonjour, je m'appelle Samy.
Bonjour, je m'appelle Abdella.
Bonjour, je m'appelle Aya.
Bonjour, je m'appelle Faris.
Bonjour, je m'appelle Imran.
Bonjour, je m'appelle Aiden.
Bonjour, je m'appelle Mathilda.
Bonjour, je m'appelle Enora.
Bonjour, je m'appelle Paul.
Bonjour, je m'appelle Estelle.
Bonjour, je m'appelle Alice.
Bonjour, je m'appelle Ola.
Bonjour, je m'appelle David.
Bonjour, je m'appelle Elena.
Écoute, écoute, ça brille. Touche, touche, ça éclaire.
Nous sommes les petits correspondants du théâtre Antoine Vitesse de l'école Paul Langevin. Nous avons assisté à notre dernier spectacle, nommé Loom, avec deux L. C'était un spectacle d'ombre, de lumière et de danse. C'est difficile de vous raconter l'histoire car il n'y en a pas vraiment.
Du coup, c'était difficile de comprendre.
Oui, mais aussi, je trouve qu'il n'y avait pas de lien entre les scènes, donc c'était plutôt flou.
Bah, pour moi, c'est justement ce qui m'a permis d'imaginer l'histoire que je voulais.
Oui, moi, j'ai imaginé l'histoire d'une petite fille qui s'amusait à se déguiser en petite princesse.
C'était plus un spectacle d'ombre et de lumière qu'un spectacle de danse.
Mais non, c'est plutôt un spectacle de danse parce qu'on dirait qu'elle joue avec la lumière. Justement, elle la cherchait avec ses mains, ses pieds, son corps, quoi.
C'était les deux. Il y avait à la fois des jeux de lumière comme un acteur supplémentaire dans le spectacle.
Tiens, parlons-en des personnages. Il y avait un homme sur scène. C'était quoi son rôle déjà ?
Oui, moi j'ai vu, c'était lui qui s'occupait des lumières avec son téléphone.
Son rôle sur scène, c'était d'être l'assistant de la danseuse.
Mais non, c'était plus poétique, c'était l'ombre de la danseuse et un peu son assistant quand même.
T'es belle. T'es vraiment belle.
Ah voilà.
Voilà, c'est bon, je pense. Hein.
Ok, bouge plus.
Oui.
Et si on parlait de la voix off? Elle prenait une grosse place dans le spectacle, non? En plus, elle traduisait le mot lumière dans toutes les langues.
Moi, je trouve que c'était du bruit de fond. J'ai pas trouvé ça si intéressant.
Moi, je suis d'accord avec Mathilda, la voix off donnait un côté fabuleux, fantastique à la pièce.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, qui vous proposera tout à l'heure son cocktail musical. Nous avons le bonheur de recevoir Luc-Michel Fouassier pour un livre que j'ai personnellement beaucoup aimé. C'est un livre qui est paru chez Julliard, qui s'appelle Cumulonimbus. C'est un roman. Et puis en fin d'émission, nous parlerons d'un autre livre, Les Pantoufles, petit livre qui est paru. C'est comme ça que je vous ai d'ailleurs découvert Luc-Michel Fouassier. C'est un petit livre, Les Pantoufles, comme une longue nouvelle. C'était paru aux éditions de l'Arbre Vengeur il y a quelque temps et c'est disponible désormais en folio. Luc-Michel Fouassier, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai, Cumulonimbus, qu'est-ce qui vous a amené sur ce drôle de chemin? Alors, le cumulonimbus, je dis ça pour nos auditeurs, caractéristique, c'est un nuage caractéristique des phénomènes orageux, ça tombe bien puisque nous avons des ciels un peu orageux en ce moment. Est-ce que je me suis demandé, est-ce que c'était pour un peu changer de votre précédent livre, Les Pantoufles, où vous faisiez un peu l'éloge de la sédentarité heureuse, et là je dirais presque que vous partez sur les routes, votre personnage principal, votre narratrice part sur les routes. C'est un peu l'art de la fugue là.
Oui, tout à fait. C'est vrai que après être resté un petit peu immobile avec mes pantoufles, l'idée d'un road trip un petit peu, et c'est au début du livre, c'est un peu ça, me taraudait. C'est pour ça aussi que j'ai construit le livre avec en utilisant un temps de conjugaison tout à fait différent. J'ai utilisé du passé composé parce que c'est un temps qui colle à l'action et je voulais être au plus près de mon personnage, coller à l'action et faire en sorte que mon personnage se déplace. Parce que dans cette histoire il y a un déplacement physique mais il y a aussi un déplacement mental car le personnage va beaucoup évoluer entre le début du livre et la fin.
Voilà, alors ça c'est vrai que il y a une évolution, il faut dire. Alors vous écrivez d'ailleurs, quand j'écris un livre, je pars d'un lieu et j'imagine une histoire autour et je voulais vraiment écrire sur le Cantal. Est-ce que le lieu, le précédent, c'était Paris, là, c'est le Cantal, en hommage d'ailleurs à votre mère. Hein.
Oui, tout à fait. Ma maman était auvergnate. Elle était très attachée à sa région de naissance, hein, parce qu'elle est née dans le Cantal. Et moi aussi, j'y suis très attaché. Et il me tenait à cœur d'écrire un livre sur le Cantal, effectivement. Une région un petit peu délaissée, qui fait partie de la Diagonale du Vide, d'ailleurs.
Ouais.
Et il m'apporte énormément de parler de cette région et aussi de choses qui sont un petit peu oubliées, car c'est vrai que le personnage va prendre des petites routes, des chemins de traverse, des petites départementale et quitter les grands axes, mais c'est aussi parce que dans sa tête, elle va quitter les grands axes et prendre des chemins parallèles.
De traverse.
De traverse, voilà. Et c'est peut-être quand même, quand on prend ces chemins-là, qu'on prend aussi le temps d'être ouvert aux autres et d'être ouvert aussi à soi-même. Et voilà. C'est un personnage qui, va faire une introspection quand même importante tout au long du livre. Et le Cantal et l'Auvergne s'y prêtaient bien parce que c'était un endroit où on a le temps de réfléchir, l'espace, on a le temps et l'espace. Et c'est vrai que le temps et l'espace sont quand même les deux grandes richesses que l'homme peut parfois s'offrir, bien au-delà de toutes les richesses matérielles. Le temps et l'espace, c'est deux choses extraordinaires et deux choses qu'on doit préserver.
Est-ce que le lieu, pour vous, ça détermine la trame narrative ?
Oui. Pour de nombreux de mes ouvrages précédents, c'est le lieu qui a été le point de départ de l'histoire. Je voulais écrire une histoire qui se passait en Auvergne. Ça a été le cas avec un autre roman qui a été paru en Belgique, chez une éditrice belge, qui se passait en Grèce. Ça a été le cas aussi pour un autre roman qui se passait sur les bords de Marne, auquel j'étais très attaché parce que j'ai vécu très longtemps en région parisienne, pas loin des bords de Marne. Donc voilà, les lieux m'inspirent beaucoup. Il faut que je puisse voir dans ma tête, quoi.